merci d'employer le mot conversation, parce que j'ai horreur du mot interview. Pour moi, le mot interview ne représente rien. Je suis pas confesseur, j'étais curieux. Moi, ce qui me passionnait, ce qui me sublimait même, c'était l'autre, son écoute, ce qu'il allait me raconter. Et à partir du moment où vous faisiez confiance à quelqu'un, où vraiment la conversation s'engageait sous les meilleurs auspices, vous aviez, de la part de cette personne, véritablement une litanie de confession. Par la courtoisie, on peut piéger n'importe qui, l'entraîner à dire quelque chose qui ne soit pas vraiment ordinaire, qui ne soit pas banal. Une bonne question, c'est celle qui a véritablement un résultat, c'est-à-dire une réponse. La mauvaise question, c'est celle qui n'aboutit à aucun résultat. Ce qui peut arriver, mais ce qui est d'autant plus drôle parce qu'on passe à autre chose.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Jacques Chancel n'aimait donc pas le terme « interview » et lui préférait celui de « conversation », ajoutant pour faire bonne mesure qu'il avait carrément été sublimé par sa curiosité pour ses invités. Mais un journaliste, même passé par un collège religieux, demeure un journaliste. Et le voici qui soudain avoue qu'il s'agit évidemment de piéger son interlocuteur pour en obtenir des confessions. Et oui, étrange occupation salariée, il faut le reconnaître, que celle consistant à poser des questions à des gens qui n'ont pas toujours envie de se livrer et veulent, c'est selon, pousser un coup de gueule, étaler leur expertise sur un sujet stratégique ou vendre leur dernier produit, qu'il s'agisse d'un livre, d'un programme politique ou d'un film. Et c'est ainsi que du matin jusqu'à la nuit, nous vivons environnés par ce déferlement de questions-réponses, au point que nous peinons à discerner dans ce magma de paroles excitées ou lénifiantes ce qui pourrait vraiment nous parler. Le théâtre, lui, nous parle et nous offre parfois la possibilité de penser, joyeusement ou gravement, en repartant lesté de mots qui résonneront longtemps en nous. Le théâtre, le meilleur en tout cas, nous fait confiance, sollicite notre intelligence, notre mémoire et nous sait plus savants que nous le croyons. Après nous avoir offert en 2013 et 2014 Projet Luciole, un merveilleux spectacle, scintillant montage de textes philosophiques revigorants, Nicolas Truong revient sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris avec Interview, créée en juillet dernier à Avignon. Avec ses deux mêmes interprètes et collaborateurs artistiques, Judith Henry et Nicolas Bouchot, il nous propose une réflexion malicieuse et profonde sur ce que révèle de notre société et de nous-mêmes cette addiction à la parole formatée qui empoisonne la réflexion. Interview est à voir au Rond-Point jusqu'au 12 mars et ensuite en tournée en France jusqu'au 17 juin. Nicolas Truong, Judith Henry et Nicolas Bouchot sont aujourd'hui les invités de l'Humeur Vagabonde. Some kind of mystery.
saw your reflection over the news. Your temperature's well past 102. Put the guns away, you're all gonna lose. Stand by or take flight. Eat or throw.
Assez intuitif, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on arrive dans un village comme ça, je fais aussi pas mal de reportages sans trop savoir chez qui je vais sonner, comment ça va se passer, etc. Et c'est un de mes moments préférés en reportage. J'arrive et je vois cette espèce de rue principale qui est propre au village français, cette espèce de rue qui s'appelle en général de la République ou Jean Jaurès ou Dieu sait quoi, enfin quelque chose de notre patrimoine, on est bien chez nous. Et donc on voit cette rue devant soi et j'ai une espèce de gourmandise comme devant une pâtisserie en me disant où est-ce que je vais sonner, à qui je vais parler, etc. Et donc je regarde autour de moi et j'allais pas dire qu'on se choisit, mais on se regarde, les regards se croisent, etc. Et là où les yeux s'accrochent, c'est le premier endroit où on s'arrête. Et c'est vrai que je pense que c'est surtout de prendre aussi le temps avec les gens, de les laisser aller le chemin qu'ils veulent prendre eux. C'est-à-dire que très souvent, en particulier quand on est journaliste, on veut les faire aller dans nos voies à nous. On veut les voilà. Moi, je viens là parce que je veux savoir ce qu'ils votent. Je veux savoir bon. Mais et en fait, non. Il faut les laisser un peu parler eux-mêmes, un peu dire ce qu'ils ont à dire, un peu essayer de les comprendre et de les faire aller, de se laisser entraîner par eux plus que l'inverse. Souvent, on est trop directif.
Bonjour Judith Henry.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Bouchot.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Truong.
Bonjour.
Vous avez reconnu bien sûr Florence Obna, puisque vous avez beaucoup parlé avec elle pour préparer une partie de ce spectacle interview. On a entendu Chancel dire piégé, on entend Florence Obna dire les laisser un peu aller là où ils veulent aller, et leur faire confiance. En fait, j'ai envie de vous commencer cette émission en vous demandant à chacun d'entre vous, vous aimez les interviews? C'est quoi pour vous une interview? Vous aimez écouter ça du matin jusqu'au soir, à la radio, à la télé? Allez, qui commence? Nicolas Bouchot.
Oui, moi j'aime bien les interviews. J'aime bien quand elles sont... Les premiers, peut-être, souvenirs que j'ai, enfin ce qui me revient à chaque fois, c'est celles que je lisais, par exemple, dans l'autre journal. Alors, c'est pas des interviews sonores, c'est des interviews écrites, mais je me souviens que Michel Butel et son équipe arrivaient à faire des très belles pages... après avoir fait des entretiens avec des artistes, avec des philosophes ou même des politiques. Et j'ai souvenir que oui, il peut y avoir quelque chose de très émouvant dans l'interview.
Judith Henry.
Oui, après, c'est un petit peu ce que disent aussi les personnes qu'on a interviewées pour le spectacle. C'est vrai que c'est des interviews qui prennent le temps, en fait. C'est celle-là, moi, que j'aime beaucoup. J'ai souvenir du Bon Plaisir, par exemple, qui était une émission sur France Culture.
Magnifique.
Qui durait très longtemps. Et voilà, j'ai le souvenir juste, notamment du Bon Plaisir, de Marguerite Duras, de Jeanne Moreau. Moi, j'étais déjà passionnée de cinéma à l'époque. Et c'est vrai que voilà, passer du temps comme ça avec ces gens-là et les écouter pendant longtemps, c'était très intéressant, ouais.
Nicolas Truong, vous qui avez une formation philosophique, j'imagine que la question du questionnement se pose d'une manière un peu différente. C'est pas de la simple écoute pour vous?
Oh, c'est de la simple écoute aussi, mais en effet,
on va dire que pour la philosophie, c'est vrai que le questionnement est important et la question l'est également. Donc on pourrait dire d'une certaine façon que le premier intervieweur, ça serait un peu osé de le dire, mais peut-être que c'était ce personnage qui se promenait en Grèce ancienne, Socrate, questionnant les uns et les autres sur ce qu'était le courage, allant voir les personnages établis pour leur demander si vraiment ils savent véritablement ce qu'ils font sans lui-même avoir les réponses. Mais je dirais que oui, si la philosophie s'intéresse à la question de l'autre, peut-être que l'interview questionne cette question de l'entre, c'est-à-dire entre deux personnes. Entre deux mondes, qu'est-ce qui se passe entre deux acteurs, qu'est-ce qui se passe précisément, l'entremêlement en fait des mondes. Et pour s'arriver à cela, eh bien, c'est souvent, oui, du temps, de l'empathie. Mais ça peut être aussi très bref. Il y a des interviews, au fond, très furtives, rapides, mais qui, tout simplement, parce que c'était lui, parce que c'était elle, parce que c'était eux, eh bien quelque chose arrive. Mais même dans les interviews canulars qu'on a regardé aussi pour faire cette pièce, celle entre Pierre Desproges et Françoise Sagan, célébrissime, pour prendre quelque chose de très populaire, très connu, mais il y a quelque chose malgré tout dans cette interview, certes un canular, arrive, notamment parmi mille choses, la profonde humanité de François Sagan. Qui
l'incroyable gentillesse. Cette qualité qui n'est pas assez mise en avant.
C'est ça, et qui est perceptible comme ça. Donc effectivement, il y a un effet de, parfois, pas toujours, parce que c'est souvent le règne de la communication, mais dès qu'on déborde un peu du cadre, et c'est pour ça que, comme j'ai dit Judith, les interviews longues, c'est-à-dire les interviews fleuves, c'est-à-dire les interviews qui débordent du cadre, sont souvent très intéressantes, qu'elles soient pour le coup courtes ou longues.
Alors on avait commencé avec Florence Aubenas, la vraie Florence Aubenas. On va poursuivre avec Florence Aubenas, interprétée par Judith Henry.
Et là tu vois combien les gens sont seuls. On a peu de moyens en tout cas de partager un certain nombre de choses, ça c'est sûr. En particulier dans les drames, parce qu'ils ont vu des tas de gens. Ils ont vu un assureur, un avocat, des policiers, mais personne ne les écoute pour eux-mêmes. Le journaliste, c'est le seul. Et comme en plus, on est super hypocrite. Enfin, nous, pas tellement. Hein. Enfin, plutôt les journalistes de télé, c'est des gens vachement marrants, sympas, sinon ils pourraient pas faire ce métier. Un peu crapules, tu vois. Donc ils escroquent les mecs, ils les poussent. Moi, le nombre de fois où j'ai dit à des gens « Mais vous m'avez raconté tout ça, mais je ne vais pas l'utiliser parce que vous allez mourir si l'article paraît. Ne le répétez jamais à personne. » Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils se foutent à poil. Ils n'ont aucune conscience que ça va être médiatisé. Moi, il m'est arrivé de dire à des gens « Mais n'ouvrez plus jamais votre porte. »
Et oui, voilà, les interviews aussi, il y en a tellement de sortes, et j'imagine que pour faire ce spectacle, alors vous avez fait des entretiens avec des gens intéressants qui ont fait de l'interview presque un art, je veux dire, mais la masse a dû vous écraser littéralement, parce que vous parliez même de Sagan Desproges, que vous n'avez pas retenu, mais il y a quantité de choses, et d'ailleurs depuis Avignon l'an dernier, le spectacle a évolué, alors... Comment vous vous débrouillez avec cette masse fabuleuse à laquelle vous, j'allais dire, pas vous attaquer, dans laquelle vous avez plongé, Nicolas Bouchaud?
C'est intéressant parce que c'est une question de départ de quelle est l'entrée ou l'axe qu'on va choisir pour faire un spectacle qui s'appelle Interview et qui traite de l'interview, donc qui traite aussi de la question, comment on pose des questions, comment on fait que l'autre parle, enfin qu'il y a de la parole qui peut arriver. Alors, au départ, c'est extrêmement vaste. Alors, très vite, pour nous, ce qui s'est imposé, qui était peut-être le plus... Pour moi, qui était le plus important, c'est que nous, on allait faire une petite enquête. C'est-à-dire que si nous, on se mettait pas dans la position des intervieweurs, alors le choix était trop large. On s'est quand même aperçu aussi qu'on a eu plus de mal... C'est amusant ça, en répétition, on a essayé beaucoup beaucoup de choses, hein. C'est des spectacles aussi très savants, parce que c'est des montages très très savants.
Dont les coutures ne se voient pas, c'est ce qu'il faut dire.
C'est bien. Et dès qu'on faisait avec Judith une interview qui avait déjà existé, Sagan, Desproges ou d'autres choses, on en a gardé quelques-unes mais très peu, il y avait un truc qui était trop dans l'imitation de quelque chose et qui amenait au spectacle une chose qu'on n'avait pas envie qui était ce truc de on va refaire des interviews. C'est là, c'est pour ça qu'on est parti, si vous voulez, le fantôme un peu du spectacle ou le spectre, et c'est comme ça que le spectacle commence, c'est le film d'Edgar Morin, Jean Rouge, Chronique d'un été, où eux-mêmes vont interviewer des gens dans la rue en leur demandant « êtes-vous heureux ?». Voilà. Donc on voulait aussi prendre cet habit ou ce costume de reporter aussi. Pour
d'ailleurs,
construire.
C'est Judith Henry qui est à la place de Marceline Loridan dans ce film d'Edgar Morin, Marceline Loridan. C'est quand même 1960 en France, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous rentrez dedans pour dire que vous êtes mal à l'aise et en fait, le personnage, Marceline Loridan, ne se débrouille pas si mal. Et au fond, cette question « êtes-vous heureux ?» Qu'est-ce que vous faites avec la vie? C'est la question qui va se poursuivre tout le long de ce spectacle. C'est vraiment le fil rouge. Judith Henry, en fond, cette question, vous avez l'impression que vous pouvez la poser encore aujourd'hui, qu'on n'a toujours pas fini de répondre à cette question, que c'est la seule qui vaille.
Êtes-vous heureux? Ben, je pense pas, non. Je pense que c'est vrai que c'est pour ça que, un petit peu après dans le spectacle, on dit, bon, en fait, aujourd'hui, on pourrait pas demander aux gens êtes-vous heureux parce que c'est presque trop simple, en fait. Hein, et c'est plutôt, oui, en fait, comment vous faites avec tout ça et quel est votre nous? Ça, c'est le chemin qu'on fait vers la question aussi. C'est un peu ça aussi le spectacle. Hein. C'est aussi trouver la bonne question. Quelle est la question qu'on pourrait poser aux gens aujourd'hui et aux gens qui sont dans la salle avec nous?
Mais Nicolas Truong, est-ce qu'il y a de bonnes questions?
Oui, il y a des bonnes questions. La preuve, puisque Jean Asfeld, que nous avons interrogé, journaliste et écrivain, qui a arrêté précisément son métier de journaliste pour un moment interroger, questionner le silence, c'est-à-dire le silence des survivants, tout d'abord du génocide rwandais. Lui, il avait besoin, en tout cas, de poser les bonnes questions. Il a même consigné dans des carnets pour chaque ouvrage, pour chaque public, on va dire, qu'il soit avec des victimes ou avec des bourreaux, des questions. Des questions pour pouvoir rebondir, pour pouvoir mettre les gens à l'aise, pour pouvoir être précis, parce qu'il fallait être précis si on posait des questions et pas être démuni lorsque les réponses très étonnantes qui nécessitaient de soutenir un regard, de passer du temps, d'être en véritable écoute. Voilà, donc oui, les questions sont très importantes. Et donc, il y a un art de la question. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a aussi cet art qui est poussé à son paroxysme par ces extraits de questions issus du questionnaire de Max Frisch que Judith et Nicolas posent à la salle et qui mettent par leur art absolu, enfin par leur à la fois leur simplicité, leur complexité, leur drôlerie, mettent le spectateur en éveil. Mais je dirais que oui, il y a des bonnes questions et peut-être quand même que ce spectacle est aussi part à la recherche de la bonne question. Mais pour partir à la recherche de la bonne question, eh bien il faut que les Judith et Nicolas questionnent les questionneurs. Plutôt que de questionner les gens sur êtes-vous heureux aujourd'hui, parce qu'on a pensé à faire ça, on s'est dit finalement que c'était plus original. Peut-être moins entendu, de questionner les questionneurs, de questionner ceux qui font parler. Parce que pourquoi Chronique d'un été? Chronique d'un été, c'est bien sûr un film qui nous a plu, mais c'est aussi parce que quand on le voit, et c'est la même chose des films que Pasolini fait, des reportages qu'il fait à la même époque, on a l'impression que c'est une parole d'avant même, hein, précisément la médiatisation, comment dire,
avant
généralisée.
Avant la banalisation des questions devant une caméra.
Oui, on voit même des gens, Marceline Loridan pose des questions, il y a même quelqu'un d'un peu âgé, certes, dans le film, mais qui a peur du micro, il ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc évidemment, les paroles, il reste 2 minutes, 2 heures ou 2 jours avec les gens, et il pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Et parfois, ça donne des choses absolument poignantes, dont un monologue de Marceline Loridan qui raconte la déportation, la mort de ses parents. Et donc, du coup, la quête, c'est comment on fait pour retrouver peut-être aujourd'hui, alors qu'on est submergé de mots et de paroles, ces moments un peu rares. Et donc, pour ça, il fallait peut-être passer par l'interrogation, mais de ce... Voilà, comment on fait, comment c'est encore possible aujourd'hui.
Parce que tu parles vous parlez d'un temps avant la médiatisation généralisée. Et il y a une chose très belle dans le spectacle que dit Hatzfeld, Jean Hatzfeld. Il dit, s'il n'y a plus de questions, c'est peut-être parce qu'il y a un formatage de la réponse.
Et puis alors, on ne saurait trop vous remercier tous les trois de nous avoir évité l'interview politique. Mais vous n'allez pas y échapper.
Michel Rocard. Est-ce que vous préférez une femme qui couche avec un autre en pensant à vous ou une femme qui couche avec vous en pensant à un autre?
Vous me mettez dans un univers que j'ai peu rencontré.
C'est ça, dit-il après avoir été marié 2 fois, oui.
Je crois que je suis plutôt fondé à espérer qu'elle pense à moi.
Est-ce que Embrasser, c'est tromper.
Oh, non.
Ah bon?
Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là?
Ben, je sais pas, je vous demande, moi.
Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non.
Ah ouais. Et sucer, c'est tromper?
Eh, pardon?
Sucer, c'est tromper?
Non plus.
Non plus, bravo. Je
vais parler d'un sujet qui fâche. Vos sourcils.
Qu'est-ce qu'ils ont, mes sourcils?
Mais vos sourcils ont une vie autonome.
Je ne me regarde pas.
Hein. Oh, c'est pas vrai. Après tout ce que vous venez de me dire, vous ne vous regardez pas? Je suis la seule à vous parler vos sourcils au monde?
Je parle pas tant que ça. Hein.
Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu?
J'aime bien les choses naturelles. Voilà.
Bon, on ne parlera pas de votre sous-bras, d'accord.
Et voilà, la première, c'était Rocard Ardisson en 2001. Et la deuxième, en 2016, Karine Lemarchand, François Fillon. Donc, vous avez évité ce qui est presque difficile à mettre en bouche quand on a un peu l'envie d'avoir un matériau que l'on peut passer à sa salle. C'est-à-dire que ça, c'était franchement, j'ai un mot qui me vient, donc je vais le dire parce que je tourne autour, salissant. Ce genre d'interview-là, vous l'avez carrément... est-ce que vous avez hésité à en faire? Ah, Nicolas Truong.
Bien sûr qu'on a hésité. Le matériel est tel que tout est tentant et... On s'est demandé, par exemple, pour l'interview de Michel Rocard par Thierry Ardisson, si, ne serait-ce que de la passer comme ça, comme vous l'avez passé là, en ne faisant pratiquement rien sur scène et en enterrant d'une certaine manière à la fois la politique et le journalisme, d'une certaine façon, on pouvait pas faire entendre précisément ce qui se disait là, autrement. On a pensé faire ça, effectivement, mais on s'est rendu compte, bien sûr, que c'était compliqué pour plein de... Parce que là, pour le coup, la réalité dépasse totalement la fiction, d'une part, et puis d'autre part, parce que ce qui nous intéressait précisément, parce que ce spectacle, il est à sa façon... par l'éthique de la parole, par l'éthique de la conversation un peu politique, précisément aujourd'hui, plutôt d'avoir ces interviews-là qu'on connaît tous comme un fond mobilisé, mobilisable par les spectateurs, et creuser précisément ce qui peut être encore pertinent aujourd'hui pour la politique comme pour l'art, comment on peut faire encore advenir des moments de vérité. Mais cela dit, c'est aussi un moment de vérité. Ouais. Parce qu'on peut dire, d'une certaine façon, qu'il y a une forme de destitution de la politique, d'un politique éminemment respectable, mais aussi consentant. Une victime consentante qui, là, laisse quelque chose de la parole publique, de la politique, se destituer, de se dévaloriser.
Nicolas Bouchot, j'ai dit Henri. Vous voulez rajouter?
Non, ouais. Après, c'est vrai que moi, je pense que, par exemple, quand on fait un spectacle de théâtre, ou un film, ou un documentaire, enfin, peu importe, en fait, mais je pense qu'on a aussi le droit et le devoir de choisir des choses qu'on aime, hein, des choses qu'on a envie de défendre, et c'est vrai que c'est pas parce qu'on fait un spectacle sur l'interview, par exemple, qu'on va faire un échantillonnage de ce qui se fait de mieux et de ce qui se fait de pire aussi. Et c'est vrai que moi, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose de, enfin, j'étais plutôt attirée vers des choses que j'aime, vers des paroles que j'aime, des choses que j'ai envie de défendre et que j'ai envie que les gens entendent le soir. Et pas forcément, effectivement, des trucs qui me donnent envie de...
Oui,
voilà.
Ben, c'est-à-dire aussi ce qu'on a évacué très vite, hein, c'est la critique des médias, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est pas si intéressant que ça, donc c'est pas la peine d'en faire un spectacle. Critiquer les interviews mainstream comme ça... on a autre chose à faire dans la vie que voilà, il vaut mieux ne pas s'en occuper. Et ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que c'est vrai que reproduire sur une scène, par exemple, ces interviews qu'on vient d'entendre, bon, en fait, c'est du café-théâtre. Ça donne du café-théâtre, donc c'est même pas intéressant artistiquement.
Zazie a sa visite aux hommes. Zazie, suçant son zon, s'amusait d'un vermisant, d'Isidore Ison. Quand zut un vent blizzard, fusant de son falzar, voici zigzagant dans les airs, Zazie et son blazer loison. S'éclate dans l'azur aussi légère que bulle d'alcancer. Elle visionne nos eaux, survolant chimpanzés, gazelles, lézards, zébubus et grizzlies d'Asie, l'oiseau des îles épizozoos. Pas l'autre zèbre, bon zigzazie, le fusillant de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo, fondu de ajout, scazo.
Comment vis-tu ? Ça, c'était la question de 1960. Mais alors, aujourd'hui, ce serait quoi la question ? Ce serait la même ?
Ben, je crois que la question reste valable aujourd'hui. Le « comment vis-tu » n'est pas une question personnelle liée à ses émotions. C'est une question qui est liée au contexte historique, qui est devenu extrêmement incertain. Et je dirais même encore plus inquiétant. Bon, à l'époque, les jeunes gens et les personnes à qui on avait posé la question, c'était des gens qui, à des degrés divers, étaient paumés. Or, ils étaient une minorité à l'époque. Et j'ai revu le film récemment, et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire. D'un côté, c'est un film historique, et de l'autre côté, il est encore plus actuel qu'à l'époque, parce qu'il y a un malheur et une difficulté de vivre qui est beaucoup plus répandu aujourd'hui, avec la précarité, les angoisses, tout ça, qu'à l'époque.
Oui, mais on a changé de civilisation, on a changé de monde. Hein, 1960, c'était un monde où il y avait des lignes de fuite, des points de fuite. Il y avait des espérances, de l'espoir. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un quelconque projet de refaire le monde. Il s'agit d'empêcher qu'il ne se défasse, et il se défait à toute vitesse. C'est comme chez le coiffeur. Hein. Avant, après, on est chevu, puis on est chauve. C'est un autre monde, quoi. Alors, comment vis-tu aujourd'hui ? Ce serait absolument dramatique, hein. Ce serait Sa Majesté le moi, comment je vis moi, chacun pour soi comme dans un naufrage. Non, pour moi la question aujourd'hui ce serait pas comment vis-tu, pour moi la question ce serait qu'est-ce que vous avez en commun et avec qui ?
Avec les voix de Judith Henry et de Nicolas Bouchaud, un extrait des entretiens de Debray Morin de 2016, toujours autour de ce film, Chronique d'un été. En fait, quand vous avez questionner ces questionneurs formidables que peuvent être Edgar Morin, par exemple, et ses compagnons de l'époque. Comment est-ce que vous les avez questionnés ?
Écoutez, on a fait comme ils avaient fait eux-mêmes, c'est-à-dire comme Rouch et Morin avaient fait, c'est-à-dire dans l'appartement, non pas de Marceline Noridan, mais le plus souvent celui
Edgar
de Nicolas Bouchaud.
Ah non, Nicolas Bouchaud.
Et le mien pour une rencontre avec Edgar
avec
Morin.
Edgar Morin.
Ça a été aussi dans l'appartement de Régis Debray. C'est-à-dire qu'on a fait avec mais voilà, du bon vin pour favoriser, comme Edgar Morin le dit, la commensalité,
la combibandalité
et au fond le climat. C'est-à-dire qu'on l'a pas questionné comme des intervieweurs. Je le suis, enfin je veux dire, je suis journaliste, donc parfois intervieweur, mais on ne les a pas questionnés comme des intervieweurs. C'était vraiment, à un moment donné, comme on dit dans le spectacle et comme il est dit dans le film, parce qu'on commence, et on a commencé à les questionner. Il faut simplement dire qu'ils nous ont fait chaque fois de très beaux cadeaux, puisque Edgar Morin a non seulement répondu à nos questions, et sur les questions sur le questionnement, et c'est du coup interrogé sur ce que c'est que questionner, parce qu'ils ont fait ça avec une grande candeur, lui était perdu, c'est un moment où il était perdu tout simplement, il était à l'ouest, il le dit, même hors de course. Et les cadeaux qu'ils nous ont fait, et en l'occurrence lui, c'est qu'il nous a donné accès au rush du film. Puisque ce film fait à peu près 1h30 dans mon souvenir, à peu près. Mais en fait, il n'était pas du tout satisfait de ce film, l'un et l'autre, il voulait qu'il dure beaucoup plus longtemps. Donc on a eu accès au rush, et donc on a eu accès aussi au raté. C'est-à-dire parce qu'ils s'y prennent très mal, en fait. Et ce qui est très beau dans ce film, c'est que du coup, ce sont des amateurs, d'une certaine façon, mais qui font advenir des moments de vérité, de paroles extraordinaires. Donc on les a questionnés, je dirais, très simplement, je veux dire, un peu comme ça, à partir de notre enquête. Et ce qui était très intéressant, en tout cas pour moi, c'était de voir, d'entendre Nicolas et Judith les interroger, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes questions, toujours. Le rapport à la parole, le rapport à la présentation de soi, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait pour beaucoup d'entre eux, parce que je ne suis pas reporter de guerre, mais journaliste spécialisé dans les idées, c'était de savoir aussi, c'est d'avoir une sorte d'altérité. C'est comment on fait questionner quelqu'un après un charnier, au moment de bombardement, etc. Donc je dirais que on s'y est pris de cette manière-là, de façon à la fois très simple, très conviviale. On a un peu singé, si je puis dire, en tout cas dans la démarche chronique d'un été, c'est-à-dire qu'on a précisément évité le dispositif artificiel de l'interview, puisque, en tout cas à trois, et avec l'équipe artistique aussi qui a participé, nous n'étions pas des intervieweurs.
Mais il y a dans Chronique d'un été ce questionnement qui s'adresse à n'importe qui, aux gens qu'on croise dans la rue, au hasard, on pose cette question. Il y a un moment où votre spectacle, l'interview, hésite un peu. Alors, comme c'est un spectacle, ça ne peut pas être abandonné au public. Mais il y a un moment où, bon, en mimant ce que faisaient Marceline et Edgar Morin, vous passez dans la salle. Sauf que il y a même des questions adressées à la salle. Parfois, quelqu'un répond. Parfois... Comment vous faites, justement, avec cette tentative d'interaction avec le public? Comment ça se passe? Est-ce que, s'il y a tout d'un coup quelqu'un qui se met à répondre vraiment et à prendre la parole, vous faites quoi?
Nicolas Bouchot. On le laisse parler.
Les gens sont très timides.
Pas tant que ça.
Ah bon?
Non, pas tant que ça. Les gens, quand on commence à leur poser la question au début du spectacle, quand on est dans la séquence Morin-Rouche, en train de faire leur micro-trottoir, donc la question « Êtes-vous heureux ?», les gens répondent assez vite.
Oui, en général.
Et en général, oui.
Hein? Sauf dimanche, on a eu un non.
Oui, mais plutôt oui. Non, si les gens prenaient la parole, et puis au moment des questions de Max Frisch, qui sont absolument extraordinaires, les questions de Max Frisch, parce qu'elles sont très électrisantes, on est obligé de rentrer dans la question. En plus, elles sont très drôles. Donc les gens rient et tout ça. Donc là aussi, ils pourraient intervenir. Non, s'ils intervenaient, je pense que ce qui serait génial, c'est de laisser la parole voilà, courir, de les laisser, vraiment. Exactement comme nous, on a fait... moi, c'était ma seule question quand on interviewait Jean Hatzfeld ou Edgar Morin. C'était de savoir quand... Est-ce qu'il fallait relancer, pas relancer? Est-ce qu'il a fini, pas fini? Est-ce qu'il a besoin d'une pause, pas d'une pause? C'était mes seules questions, c'était obsessionnel. C'était, voilà, comment on met du rythme, en fait. Mais peut-être que ça, c'est parce que c'est proche du métier d'acteur ou... où on travaille beaucoup sur le rythme de la parole, comment faire exister une parole, c'est lui donner son rythme et tout ça. Et dans une interview, il y a un peu quelque chose comme ça. Hein, on se posait toujours cette question. Moi, je te disais toujours à chaque fois, mais je sais pas quand il faut les arrêter. Là, je sens qu'il faut le laisser. Donc, alors, c'est le même rapport avec les spectateurs d'une certaine façon.
Et du coup,
Nicolas Truong.
Du coup, l'idée, c'est de les mettre les spectateurs dans un état, en tout cas après l'heure et demie, qui serait celui de pouvoir répondre véritablement et parler. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de jeu, de questionnement. On questionne le public, mais sans véritablement lui donner la parole, s'il prenait la parole, on lui donnerait. Mais l'idée consistait précisément à créer ce climat que Nicolas et Judith créent ce climat à la fois de confiance, d'empathie, de sentir le public pour qu'il soit peut-être en état, là, pour le coup, vraiment de répondre à cette question. Êtes-vous heureux ou plutôt comme...
Comment vous faites avec tout ça?
Comment vous faites avec tout ça aujourd'hui?
Alors, on a parlé de ce questionnaire issu des questions élaborées par Max Frisch. On en écoute un petit florilège.
Quel est le nom de l'homme politique dont la mort, par maladie, accident de la circulation, etc., pourrait vous remplir d'espoir?
Quelle mort aimeriez-vous revoir?
Quelle autre, par contre, non. Auriez-vous préféré appartenir à une autre nation, une autre culture, et laquelle?
Tirez-vous d'une liaison amoureuse des leçons pour la suivante?
Non. Si vous aviez le pouvoir aujourd'hui d'ordonner ce qui aujourd'hui vous paraît juste, l'ordonneriez-vous contre l'opposition de la majorité? Vous voulez que je redise? Oui ou non?
Non.
Et pourquoi non si cela vous paraît juste?
André, il m'a demandé s'il fallait redire ou pas. J'ai dit non.
Enviez-vous parfois les animaux qui semblent se tirer d'affaire sans espoir? Par exemple, les poissons dans un aquarium.
Haïssez-vous plus facilement une collectivité ou une personne déterminée et préférez-vous haïr seul ou au sein d'une collectivité?
Avez-vous de l'humour quand vous êtes seul?
Joli questionnaire, effectivement. On rêverait de pouvoir poser ce genre de questions à nos invités, Nicolas Tréhanc.
Bah écoutez, vous pouvez, ils sont là, ils peuvent répondre. Après tout, Judith et Nicolas les posent tous les soirs. Ils peuvent peut-être donner quelques réponses.
Ils ont très envie d'y répondre. Oui.
Après tout.
Tiens, oui, avez-vous de l'humour quand vous êtes seul? C'est une très bonne question. Nicolas Bouchot.
Je crois que oui.
Judith Henry.
Bah oui, oui.
Ah, c'est bien, Nicolas Tréhanc.
Écoutez, j'espère, en tout cas, j'espère en avoir.
Non, après, c'est marrant parce que c'est vrai que ces questions-là, en fait, finalement, elles laissent plus... c'est ce que nous ont dit certains spectateurs, mais on y réfléchit, en fait. On les reçoit et on y réfléchit. On n'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'y répondre tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure aussi tous les soirs et qu'on, voilà, qu'on améliore, sur les temps, les durées entre les questions, les... Voilà, que les gens puissent un peu laisser flotter les rubans, comme diraient les bergers dans les montagnes. Mais pas forcément, on n'attend pas forcément de réponse. Là, ouais.
Alors, il y a aussi ces petits bouts de questionnaires, de questions-réponses que vous interprétez, rares, effectivement, qui nous en apprennent finalement presque plus sur le questionneur que sur le questionné. On écoute Pivot interrogeant Duras, bizarrement derrière le générique de Jacques Chancel.
Mais alors, Marguerite Duras, une question. Pourquoi vous, Marguerite Duras, vous vous suicidiez à l'alcool, au vin rouge? Pourquoi?
Parce que j'ai connu des hommes qui m'ont fait boire, ça a commencé comme ça, avec qui je sortais tous les soirs.
Ah oui, mais pourquoi? Buvez-vous, pourquoi?
Parce que je suis une alcoolique, ça existe, hein.
Oui, mais pourquoi êtes-vous alcoolique?
Parce que j'ai connu des hommes qui m'ont fait boire.
Et on commence à boire comme ça?
Vous savez, on boit parce que Dieu n'existe pas, il est remplacé par l'alcool.
Et oui, c'est la réponse, les réponses de Marguerite Duras sont infiniment plus fines que les questions posées par Bernard Pivot. C'est assez surprenant quand on pense à l'aura de Bernard Pivot dans Apostrophe, c'est vrai que...
Absolument, et je disais à Judith et Nicolas quand on a repris là, il n'y a pas très longtemps, je lisais un article dans Le Monde qui parlait de cette interview comme un des interviews un peu comme ça... référent de l'histoire de l'interview, Pivot-Duras. Et oui, bien sûr, moi c'est ce qui me frappait beaucoup quand j'avais revu il y a très longtemps des émissions d'Apostrophe, c'est cette espèce de façon de tout. Et chez Pivot, il y a toujours ce truc un peu de fausse innocence ou de fausse naïveté. Mais alors, comment ça se fait que vous, etc. Cette espèce de bonhomie et tout ça, qui fait qu'à un moment, oui, il y a quelqu'un qui fait son show. Et puis, c'est le démarrage, quand même. C'est important, ça. De l'interview commence par, alors, Marguerite Duras, quand même, 100 000 exemplaires vendus en 4 semaines. C'est absolument fabuleux. Bon. C'est le début du truc qui dit qu'on continue à entendre aujourd'hui. C'est-à-dire, alors, votre film, il a fait, je sais pas combien de millions d'entrées, extraordinaire, succès, voilà, c'est ce truc-là, voilà. Alors qu'on aurait pu imaginer qu'on prenait une autre voie, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi, c'est le rôle de la critique d'ailleurs, c'est de défendre les choses qui ne seront pas a priori vues par le public, c'est de leur donner du temps, c'est de leur donner un supplément, enfin bon, toute cette histoire-là. Mais avec Pivot, on rentre vraiment dans une forme de spectacle ou de façon comme ça, la rotation rapide des livres, un truc comme ça, ouais. Et c'est marrant de le faire entendre. Enfin, on entend très très vite que c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
En fait, il l'interroge au moment où elle passe du statut d'écrivain confidentiel au statut de grand public. C'est ce moment-là.
C'est ça. Et ça commence comme ça. Sur 100 000 exemplaires en 4 semaines, alors, Margazia, c'est fabuleux.
Et puis, il y a un moment dans l'interview où vous chantez et vous dansez.
Il faut créer le climat.
Things
like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried?
Oh.
Things like lovers vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to.
Cling to.
And heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now.
When I'm not thinking of just how much I love you.
I love you too.
Well, I'm thinking about the things we used to do.
Used to do. Thinking about things.
Like a walk in the park.
Things.
Like a kiss in the dark.
Things.
Like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried?
Hey.
Things. Like a lover's vow. Things. That we don't do now. Thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing.
Playing.
And the face I see each day belongs to you.
Belongs to you.
Though there's not a single sound and there's nobody else around.
Ooh.
Well, that's just me thinking about things we used to do.
We used to do. Thinking about things.
Like a walk in the park.
Lots of things.
Like a kiss in the dark.
Yeah, things.
Like a sailboat ride.
Whoa, whoa.
What about the night that we cried? Things like lovers vow. Things that we don't do now.
Thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends I'm talking to.
You got me thinking about the things we used to do.
Sur France Inter.
Il y a un défaut qui est inhérent au journalisme, qui est de ne pas faire confiance à son interlocuteur. De ne pas arriver à concevoir que cette personne puisse avoir de l'intérêt, qu'elle puisse vous surprendre. C'est quelqu'un qui dit « n'est-ce pas que ?» Il ne dit pas « est-ce que ?» Il dit « n'est-ce pas que ?» C'est quelqu'un, voilà, il va voir une paysanne africaine et il dit « n'est-ce pas que c'est terrible ce qui vous arrive ?» Vous n'avez jamais connu ça. Enfin, il fait les réponses en même temps que les questions, parce qu'il les a déjà dans la tête. Mais enfin, il s'intéresse vraiment pas à son interlocuteur. Puis, il y a des journalistes qui arrivent pas à trouver le ton, qui arrivent pas à se mettre au diapason. Parce que, en fait, avoir une discussion avec quelqu'un, c'est se mettre au diapason.
Parmi les entretiens au long cours que vous avez eus avec les questionneurs que vous aviez envie de questionner. Il y a évidemment Jean Hatzfeld, qui, là c'est Nicolas Bouchaud, qui met sa voix sur les mots de Jean Hatzfeld. Ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est que pour parvenir à écrire sa trilogie sur les rescapés, les bourreaux, puis les jeunes, les enfants de ceux que l'on poursuivait dans les marais, il a fallu qu'il dépose sa besace d'intervieweur, de journaliste encarté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et on le sent bien dans votre spectacle, il y a un moment où l'interview bonne, disons, l'interview intelligente, correcte d'un journaliste, ne marche plus. Il y a un moment où devant l'horreur, alors les charniers en Bosnie, devant les horreurs, les génocides, la question n'est plus d'actualité. Il y a une qualité d'écoute, là. Et il faut juste trouver un petit déclic pour laisser passer le flot des paroles. Donc là, l'interview, c'est plus le mot. Ça devient l'écoute. Comment écoute-t-on l'inécoutable, Nicolas Truong?
Certains continuent à parler d'interview. Je crois que Jean Hatzfeld ne renierait pas ce terme. Svetlana Alexievitch, journaliste au départ et prix Nobel de littérature, qui a donc fait ses livres...
La fin de l'homme rouge, notamment.
Notamment La fin de l'homme rouge, mais qui ne sont que des livres composés d'entretiens. En tout cas, ce sont des romans de voix et de questions qu'elle a posées, qu'elle a remontées, réécrites aussi.
Sur 30 ans.
Sur 30 ans, effectivement, elle n'est plus, enfin ne se dit plus intervieweuse, en effet. Alors je ne sais pas si c'est, je pense que c'est plutôt le rapport, c'est-à-dire que quand même, le journaliste, il a besoin, il travaille pour un journal, pour une radio, pour une télévision, il a quand même besoin de rendre des comptes, de renvoyer son papier, d'envoyer son reportage. Or là, il s'est aperçu que pour faire parler précisément le silence, ceux qui ne pouvaient plus parler, ceux qui n'avaient plus accès véritablement à la parole, soit parce qu'on leur posait pas tout simplement les deux questions, soit parce qu'ils ne pouvaient plus parler, il avait besoin là d'arrêter, c'est-à-dire de ne pas être journaliste. Et donc, il s'est mis précisément à questionner, comme font d'une certaine façon, de manière très différente, lui, Jean Hatzfeld, Svetlana Alexievitch, ou même Claude Lanzmann, auquel on a beaucoup pensé pour faire ce spectacle, qui effectivement, lui aussi, dans ce film Shoah, notamment, pose des questions. Et parfois des questions de façon très inquisitoriale.
À ce moment-là, ce sont des questions très matérielles.
Des questions très matérielles.
Comme Jean Hatzfeld.
Et Jean Hatzfeld le dit, lui aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut... C'est
de pour quelle ça heure qu'il à quelle heure avec quelle arme, comment
ouais. Oui, et les temps aussi. Est-ce qu'il faut dire je, tu, ou plutôt on, et nous, ou vous, pardon, pour parler au tueur. Et là, encore une fois, il nous a fait un beau présent, puisqu'il nous a confié, suite à cette longue conversation donc que Judith cite dans le spectacle que nous avons eu avec lui, il nous a donné des carnets. Ces carnets, en fait, de questions qu'il a mis 10, 15 ans à élaborer. Et donc, effectivement, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a un passage de relais, d'ailleurs, dans le spectacle, entre Florence Obna, Judith Henry et Jean Hatzfeld, non pas parce qu'il serait Nicolas Bouchaud, non pas parce qu'il serait meilleur journaliste, mais c'est qu'à un moment donné, il arrête de l'être pour pouvoir interroger le silence, parce que les journalistes s'intéressent à la parole, et c'est bien normal.
Et d'ailleurs, c'est vers justement la deuxième partie de ce spectacle qu'on sent bien qu'on rentre dans un autre mode d'interview, de questionnement. C'est aussi le merveilleux couple de Pardon-Nougaret. On va écouter Claudine Nougaret, dans la voix de Judith Henry, parler de la manière d'interroger de Raymond Depardon.
Nous sommes des anti-intervieweurs. Notre plaisir, justement, c'est de ne pas faire d'interview. D'ailleurs, Raymond, quand il pose des questions, il pose des questions complètement débiles. Alors le spectateur, il ne comprend pas. Il se dit, mais il est complètement débile, ce Raymond Depardon, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a même une fois, il y avait un silence qui durait très longtemps, très très longtemps. Parce que Raymond, il est capable de faire des silences très très longs, hein. Beaucoup plus longs que ceux qu'on monte à l'écran. Et alors, à court d'inspiration, peut-être, un peu préoccupé par ton matériel aussi, tu as posé cette question. C'est chaque année votre anniversaire. Complètement absurde. C'est pour vous montrer à quel point de degré zéro il avait envie de poser une question. J'avoue, c'est très symbolique de sa non-intervention. Tu fais confiance aux gens.
C'est magnifique, les propos de Claudine et de Raymond. C'est vraiment un beau moment du spectacle. J'imagine que pour tous les deux, Nicolas Bouchaud, Judith Henry, ça a été un joli moment d'écouter ces gens qui... En fait, il parle en filmant, donc c'est souvent compliqué d'écouter Raymond parler de son métier, parce que son métier, il est dans ses films.
Oui, et puis les deux interviews que nous, on met ensemble dans notre montage, ont été faites séparément. C'est-à-dire qu'il y a eu une interview de Claudine Mougaret, puis une interview de Raymond Depardon. Enfin oui, le contraire, mais ils n'étaient pas ensemble quand on l'a fait, et nous, donc dramaturgiquement, on a essayé de les mettre ensemble. Oui, il y a des choses magnifiques. Et puis là, c'est aussi une espèce... On parlait d'Hatzfeld tout à l'heure, c'est-à-dire quand Jean Hatzfeld dit qu'il est carrément un inventeur de questions, d'où ses carnets du Rwanda où il a consigné toutes ces questions. Donc on passe à un moment dans le spectacle à cette chose de, effectivement, comment faire advenir la parole, donc en inventant des questions, et puis avec les deux pardons, en laissant le silence, en partant du silence. C'est-à-dire que ce que dit à un moment Raymond Depardon, bah, il faut toujours démarrer le plan quand il se passe rien, il faut toujours démarrer le plan un peu en amont. Il faut être là en embuscade, il y a tout ce système dont il parle, celui de l'embuscade, quoi. On se met là, on attend que les gens passent, et puis on... Voilà. Donc oui, il y a quelque chose de très émouvant, et puis il y a une avancée véritable dans le spectacle. Puisque là, on arrive chez deux personnes, enfin, Claudine Mougaret et Raymond Depardon, qui, eux, vont se servir de l'interview, je dirais, dans une visée artistique. Puisqu'on ne dit jamais assez, mais leurs films, enfin, eux, ils en parlent beaucoup, et elle en parle beaucoup sur le son. Ils sont extrêmement travaillés. Ils sont même très, très beaux, les films sur les paysans, au niveau de l'image, etc.
Et du son.
Et du son, et Journal de France, et Les Habitants, c'est des films qui sont très très bien filmés. Enfin, là, on est, y a plus cette différence entre documentaire et fiction. Enfin, on est vraiment. Donc, eux, ils portent cet art-là de la question, ou de la non-question, comme ils disent, au niveau artistique. Donc, c'était très beau de finir là-dessus. Et on est d'autant plus content que quand on l'a créé à Avignon, ce n'était pas la fin du spectacle. C'est une fin qu'on a retravaillée pour la reprise. Donc, merci à Bobigny et à Hortense Archambault de nous avoir donné 10 jours de répétition pour refaire les 20 dernières minutes du spectacle.
Mais parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, eux-mêmes poursuivent exactement le même questionnement de Rouche et de Morin et de Marceline Loridan. Parce qu'au fond, quand ils filment ces gens comme ça qui parlent, c'est aussi pour savoir comment ils font avec la vie et est-ce qu'il y a encore du nous entre eux. Donc c'est très beau pour un spectacle de boucler...
Oui, on boucle la boucle là.
Non, puis ce qui est joli aussi, c'est vrai, c'est qu'en fait, ils connaissent aussi très bien et Jean Hatzfeld et Florence Aubenas, et enfin, il y a quand même un... Et c'est le hasard qui fait qu'il y ait... Voilà,
Non,
c'est pas le hasard, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait exprès, en tout cas. C'est vrai qu'on y a pas... ça s'est fait comme ça, mais parce que c'est des belles personnes. Donc.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être venus tous les trois nous parler aujourd'hui si bien de ce spectacle interview qui se poursuit donc au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 12 mars. Ensuite, il sera en tournée en France en démarrant le 16 à Marseille. Il se terminera le 24 mai à Angers et retour à Paris dans notre cher Théâtre Montfort du 29 mai au 17 juin, ne le ratez surtout pas. Et comme vous m'avez fait ce cadeau de venir et de m'avoir permis de voir ce beau spectacle, je vous fais un dernier cadeau. C'est Pierre Dumayet qui parle des questions. Au revoir à tous les trois.
Merci, Catherine. Vous savez bien que c'est finalement beaucoup plus amusant de poser des questions que d'y répondre. En gros.
Quelle est l'importance de la question et de la réponse ?
L'importance de la question, je sais pas... C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais il y a des questions qui pour A sont des questions et pour B sont pas des questions. Hein ? Il y avait une petite phrase de Gide qui était très jolie. Il définissait un philosophe comme ça. Il disait quand un philosophe vous répond, on ne sait plus quelle question lui a posé.
C'est très beau, je veux dire.
C'est jolie définition. Bon. C'est souvent un peu ça aussi, hein, parce que. Je me demande dans le fond si vraiment on peut poser une question à quelqu'un. En dehors de quelle heure est-il, où est-ce que tu as tué madame machin.
Mais on peut avoir une conversation.
On peut avoir une conversation.
C'est complètement différent.
C'est très différent, oui.
une conversation, ça se suit.
Ah, une conversation.
Et dans un espace.
Ah oui, 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 une conversation, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que souvent, on appelle question ce qui peut être relance de conversation, mais qui n'est pas véritablement une question.
Voilà, c'est fini pour les questions aujourd'hui. C'est fini pour l'humeur vagabonde également. Nous nous retrouverons dimanche prochain, si vous le voulez bien. Je recevrai l'écrivain américain David Treuer pour son roman « Et la vie nous emportera ». Et bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière pour les Saventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.